OK, maintenant, on va aller jaser avec Martin Biron, l'excellent analyste pour TSN. Vous pouvez l'entendre également à RDS à l'occasion. On lui parle, je sais plus, j'allais dire 4-5 fois par année, mais je pense qu'on est plus rendu à 10-12 fois par année. Il est toujours disponible pour moi et j'apprécie tout le temps. Salut, Martin!
Salut, Danois. 10, 12, 15, on a arrêté de compter.
Ouais, t'as arrêté de compter, mais d'après moi, cet été, quand tu vas venir à Québec, je vais être obligé de payer la bière.
Ah, il n'y a pas de problème. C'est sûr que je t'envoie un texto, un appel pour ça. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Hey, Martin, t'es originaire du lac Saint-Charles. On ira manger une poutine au casse-croûte Flashbourg.
Hey, tabarouette, je vais te dire, là, ça fait tellement longtemps que je suis pas allé là, dans un casse-croûte au lac Saint-Charles, même au lac Beauport. Mon frère est au lac Beauport. Okay. Effectivement, ben, il se ramasse chez Boub au lac Beauport.
Chez
Boub, mais
ah ouais, c'est ça.
Je vais te dire, là, ça fait tellement longtemps, j'aimerais bien ça. Une poutine puis une bière, les deux ensemble, pas de problème.
Parfait, c'est moi qui paye. Texte-moi, c'est moi qui va payer. Parfait. Hey, Martin, les Sabres de Buffalo se sont trouvés un entraîneur-chef, puis dans les derniers jours, il y avait beaucoup de rumeurs. On a même parlé de Jacques Martin. Puis moi, je suis pas... Probablement que tu vas me dire que c'est un monsieur qui connaît beaucoup son hockey, mais moi, je suis pas de ce genre-là en 2019. J'aime mieux y aller avec quelqu'un d'un peu plus rafraîchissant, qu'un vieil entraîneur de profession comme Ken Hitchcock ou Jacques Martin. Là, Ralph Kruger qui arrive à Buffalo, comment tu vois ça?
Ben moi, je pensais, puis Jason Botterill l'a dit un matin lors de son point de presse, que les Sabres avaient besoin d'un entraîneur avec l'expérience de la Ligue nationale. Peut-être pas un vieux de la vieille. Là, moi, je pensais que Todd McLellan aurait été un bon candidat ici à Buffalo. Il est parti pour Los Angeles. Dave Tippett, je pensais que ça pourrait peut-être être un bon candidat aussi, ouais, à cause de la structure avec laquelle Dave Tippett a coaché avec les Stars de Dallas et l'Arizona. Ça a l'air que possiblement Dave Tippett soit resterait avec Seattle pour la planification de Seattle ou se retrouverait à Edmonton. Alors, je pense que lorsque tu te retrouves avec moins d'options, et que tu dois vraiment regarder là out of the box, comme ils disent en anglais, là, vraiment des options un peu différentes. Je pense que Ralph Kruger, c'est une bonne option. Écoute, c'est un gars tellement intelligent. C'est un gars qui a coaché à tous les niveaux, Ligue nationale, européen, championnat du monde, Coupe du monde, olympique. On se souvient qu'en 2006, il était à la barre des Suisses lorsqu'il avait surpris l'équipe Canada à Turin aux Olympiques. Ouais. En 2014, il était avec le groupe de Mike Babcock avec l'équipe Canada aux Olympiques. En 2016, il était avec l'équipe d'Europe. Je pense qu'il y a beaucoup d'expérience, puis il y en a beaucoup qui disent wow, mais tu sais, il n'a pas coaché dans la Ligue nationale depuis quand même 6 ans, lors de la saison 2012-2013, qui était seulement de 48 matchs. Mais il est resté dans le hockey, il est resté dans le monde des affaires. Puis on a eu la chance d'y parler un matin, puis très impressionné par Ralph Kruger là, lors de ses entrevues et tout. C'est sûr que je vais être quand même un petit peu... je vais me protéger dans mon optimisme là, parce que on a eu ouais, des problèmes avec les entraîneurs ici à Buffalo dernièrement. Ouais. Mais j'aime le choix. Je suis surpris, mais une bonne surprise de mon côté.
OK, ouais, c'est ça. C'est un monsieur qui... c'est drôle parce que t'es pas le premier homme de hockey à me dire ça. Il y a 3-4 ans, quelqu'un m'avait dit « Colin, ce gars-là, quand il est passé à Edmonton, les gens l'ont apprécié. Pis c'est le genre d'entraîneur qui pourrait revenir à la Ligue nationale. Quand tu jases avec lui, quand tu le côtoies, tu comprends à quel point il est compétent. »
Oui, puis pas juste ça. Je pense que Jason Botterill, il y a 2 ans, avant d'embaucher Phil Housley, avait contacté Ralph Kruger, mais à ce moment-là, Kruger était avec contrat avec le club de soccer de Southampton, alors il ne pouvait pas partir comme il fait partie de l'organisation, okay, du club de soccer là-bas en Angleterre. En
ouais, tout cas. Exact.
Il pouvait pas partir. Et ça, c'est une recommandation que Jason Botterill avait eue de Jim Rutherford, le directeur général à Pittsburgh, qui avait travaillé avec Ralph Kruger lorsqu'il était avec la Caroline. Kruger était un dépisteur de l'Europe dans le temps,
okay,
lorsqu'il était avec l'équipe suisse. Alors, je pense que, tu sais, quand t'as tellement de monde d'hockey qui voit, là, vraiment une valeur en un individu comme Ralph Kruger, t'as pas ben le choix d'écouter et de faire, là, tes devoirs, tes leçons, tes devoirs. Et là, il l'a interviewé. Il a été impressionné par son interview. Les Pogula ont été impressionnés par Ralph Kruger, alors tout le monde a vraiment bien aimé ça.
Et contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, parce qu'il y a un nom européen, c'est un monsieur qui est né à Winnipeg.
Oui, mais ses parents étaient allemands et ils sont venus au Canada. Alors, il est né à Winnipeg. Il a fait un bon chemin dans le hockey. Il a joué surtout en Allemagne dans le hockey.
Ouais.
Dans le hockey, après ça, il est resté en Europe longtemps. Il a une citoyenneté suisse, une citoyenneté canadienne. C'est un gars qui est dans le monde des affaires. Écoute, il va dans des meetings là, d'économie mondiale et tout. Je pense que c'est pas juste le hockey ou le soccer. C'est un gars tellement intelligent. On a parlé avec des joueurs. Thomas Vanek, qui joue présentement avec Detroit, mais il a joué avec Montréal, avec Buffalo, et qui était avec l'équipe de Ralph Kruger, avec l'équipe européenne en 2016 à la Coupe du Monde. Il dit, c'est le genre de gars, il te parle une fois, il se souvient de ton nom, il sait, il connaît ta famille, c'est un gars là, qui a des intérêts à la personne, à l'être humain, et pas juste le joueur de hockey. Alors ça, c'est genre là, la psychologie un peu moderne des entraîneurs d'aujourd'hui, c'est pas juste des gars qui sortent le fouet, puis ça crie à tout le monde, puis voyons, il va. Ça doit vraiment approcher chaque joueur, chaque individu, surtout les jeunes, d'une nouvelle manière. Je pense que Ralph Kruger a ça.
Ça, c'est fort intéressant ce que tu amènes comme point, Martin. Puis je pense que les joueurs, au-delà des millions qu'ils gagnent comme joueurs de hockey de la Ligue nationale, certains disent que c'est devenu des PME. Ben, crime, les joueurs apprécient ce genre d'entraîneur-là. Je suis convaincu de ça.
Ah oui, je pense que. Que ce soit comme à Buffalo, que ce soit un Jack Eichel, un Rasmus Dahlin ou un Carlo Pozzo, t'as des entraîneurs comme Ralph Kruger où tu peux t'asseoir dans le bureau juste pour parler du match de la soirée d'avant et après ça, il va s'intéresser à bon, est-ce que tes enfants, comment ça va à l'école, comment va ta femme, tes parents, quand est-ce qu'ils vont revenir en ville pour nous visiter. Alors, ça fait que à toutes les fois que tu vas pour une conversation, c'est pas juste le mode business. Puis on sait, hein, tu sais, on a tous des boss. Puis des fois, ben, faut que tu oublies le côté affaires. Il faut que tu sois capable de parler d'autres choses. Et je pense qu'un gars comme Ralph Kruger, ça va être intéressant. Puis aussi, il va falloir qu'il construise là, une équipe d'entraîneurs à l'entour de lui. Les entraîneurs adjoints qui étaient à Phil Housley sont encore sous contrat. Mais d'après moi, Ralph Kruger va amener du monde à l'entour de lui avec qui il a déjà été entraîneur ou il a déjà une bonne relation. Et là, tu vas voir vraiment une équipe d'entraîneurs ensemble au lieu d'avoir juste un entraîneur-chef et d'autres assistants. Je pense que c'est de la manière que Ralph Kruger voit les choses et ce qui serait vraiment intéressant ici à Buffalo.
OK, parfait. Les séries de la LNH nous donnent de l'excellent hockey. Comment t'analyses comme analyste de hockey, comme ancien gardien de la LNH, Martin, comment t'analyses la performance de Tuukka Rask cette année versus toutes les autres années où il a gardé les buts dans la Ligue nationale, puis à chaque fois qu'il recevait un lancer, on se demandait s'il allait l'arrêter?
Écoute, je pense que Tuukka Rask a fait un changement, puis c'est pas un changement que tu dis « il a changé sa technique » ou « il est plus rapide » ou il a changé son équipement. Je pense qu'il a fait un changement mental. En première ronde, contre Toronto menait 2-1. Lors du quatrième match, les Bruins de Boston ont pris une avance de 2-0. Et là, Toronto est revenu dans le match. Et le deuxième but de Toronto, c'était un mauvais but de Tuukka Rask. C'est un lancer d'Austin Matthews qui a passé en dessous du bras de Tuukka Rask, le bras droit. Et à ce moment-là, on sentait Tuukka Rask fragile. Puis c'est comme s'il est arrivé à une intersection et il aurait pu prendre le virer à gauche du côté fragile ou virer à droite du côté confiant. Et il a viré à droite. Il a fait un arrêt sur Connor Brown à peu près une minute après ça, qui était un gros arrêt clé dans la victoire des Bruins. Les Bruins ont gagné en 7. Et depuis ce temps-là, Tuukka Rask est le joueur le plus utile aux Bruins. Pas, dans mon avis, à moi, le joueur le plus utile à son équipe dans les séries éliminatoires présentement.
Oui.
Puis je pense qu'il est arrivé à une intersection et chaque athlète arrive à cette intersection-là à un moment donné et doivent se poser la question, est-ce que je vire à gauche ou je vire à droite? Ben, Tuukka Rask a viré du bon côté, puis ça a vraiment changé l'allure des séries pour les Bruins de Boston.
Parfait. Dernier point avant de te laisser, Jordan Binnington, 25 ans, Les gens du Hockey News se questionnaient cette semaine à savoir, ça va être quoi son contrat comme joueur autonome avec restriction? 650 000 cette année, évidemment. Il va falloir qu'il renégocie cet été. Les Blues vont vouloir le garder. Ils ont Jake Allen encore pour 2 ans à 4,3 millions. Ouais. Jordan Binnington contre les Sharks. Premier match, les Blues au complet n'étaient pas là. Deuxième match, ils mènent 2-0. Ça vient 2-2. Deuxième but entre les jambes. Puis finalement, les Blues ont gagné. Est-ce que Binnington, pour toi, le match de ce soir, c'est le match le plus important de la série pour lui?
Oui, probablement. Je pense qu'il y a eu une très grosse première période lors du deuxième match. Écoute, des très gros arrêts contre les Sharks de San Jose. Oui, il en a donné un entre les deux jambes, puis il a regardé au ciel après en voulant dire « Ah, je peux pas donner ce but-là comme gardien de but ». Mais encore une fois, ce qui m'impressionne le plus d'un gars comme Binnington, comme Rask, puis même Martin Jones à San Jose, c'est la manière qu'ils sont capables là, d'avoir le focus sur la game et pas sur le passé. Martin Jones, il y a une année vraiment là, pitoyable, et dans les séries, il est un autre gardien de but. Tucker Rask, la même chose. Binnington, il a une très bonne saison, mais même avec un mauvais match ou une mauvaise période, il est capable de revenir et de bien performer. C'est ça la force mentale d'un athlète de Ligue nationale, d'un gardien de but de Ligue nationale qui a du succès. Puis, écoute, c'est ça, ça va être difficile pour les Blues de trouver vraiment le bon chiffre pour Binnington dans les prochaines saisons. Mais tu regardes Matt Murray, qui a signé un contrat de 3 ans à peu près à 3 millions et demi après avoir remporté la Coupe Stanley. Alors, peut-être qu'on parle de Jordan Binnington dans la même vague là, que ces gardiens de but-là à 3 millions et demi par année, un contrat à court terme, juste pour être sûr de ne pas s'envelopper là, à donner 5-6 millions pour 6 ans à un gardien de but qui a juste joué une demi-saison.
Absolument, bien d'accord avec toi. Un gros merci, Martin.
Pas de problème. Bon été, Dan, puis on se reparle à l'automne.
Sans faute. À bientôt. Merci, Martin. Martin Biron, toujours agréable de lui parler. Martin Biron est un gars de Québec qui, à chaque fois que Will ou moi, on le texte ou on l'appelle, il est toujours disponible. Je vous dirais que je vais prendre le compliment que vous me faites quand je vous croise, parce que vous, vous ne croisez pas Martin Biron puis tous les autres collaborateurs que j'ai sur une base régulière dans mon émission. C'est pour ça que j'aime tant ma job. C'est pour des discussions comme je viens d'avoir depuis une douzaine de minutes avec Martin Biron. C'est pour des discussions que j'ai avec mes réguliers de l'avant-match à chaque semaine. C'est des discussions comme j'ai avec Will Lalonde. Vous me dites souvent « Hey Dan, c'est le fun ton émission. Vous avez l'air d'avoir du fun, Will et toi. » Tu as d'excellents collaborateurs, mais quand vous me faites le compliment, il faut le relancer, ce compliment-là, à des gars comme Martin Biron et à tous ceux que je parle à longueur de semaine.